Donc, je m'appelle Céline et ça fait 16 ans que je voyage. Depuis mon premier voyage, qui est au Costa Rica, et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui, j'arrête pas de voyager un peu aux quatre coins du monde, sans vraiment d'itinéraire ni rien. Et je suis ce qu'on appelle une. Moi, en tout cas, je m'appelle semi-sédentaire ou semi-nomade, parce que je cours pas les routes. J'aime prendre mon temps et m'installer dans des pays et faire des mini-expatriations. Et donc, mon premier voyage, le Costa Rica, j'avais 15 ans. Et je suis partie un an en échange interculturel. Donc, ça veut dire que j'étais logée dans une famille costaricienne. Et en même temps, j'allais au lycée. Et après, j'étais libre les week-ends, pendant les vacances, de voyager. Et j'ai décidé de partir parce que, comme beaucoup d'ados, je regardais la télé. Je regardais des films. Et je voulais savoir si ce que je voyais à la télé correspondait à la réalité. Et je me suis dit que le seul moyen de le savoir, c'était d'aller voir par moi-même.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Céline nous raconte le Costa Rica. Avec elle, on a parlé de moustiques, d'écologie et de choix de vie.
J'ai bourlingué à travers le monde. Donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé partir un an comme ça à l'autre bout du monde. Donc je suis partie, je parlais pas espagnol parce que j'apprenais l'espagnol au collège, mais c'était pas vraiment dans mes priorités. Et je suis arrivée au Costa Rica, ça a été un assez gros choc culturel parce que j'étais sur la côte Caraïbe à Puerto Limón. C'est une ville qui maintenant est très connue parce que très touristique. À l'époque, c'était complètement oublié du gouvernement. Il n'y avait pas du tout de moyens, il y avait beaucoup de délinquance, beaucoup de drogue. Si ma mère écoute ce podcast, maintenant elle va se poser des questions. Et donc voilà, donc ça a été un premier choc culturel de quitter la région parisienne et d'arriver dans une petite ville aux Caraïbes, donc cocotiers, le sable fin, et puis les bateaux de Colombiens ou de je ne sais quel pays qui envoyaient leur drogue aux États-Unis, qui passaient au large de ma ville. Donc assez important le choc culturel. Et au niveau de la langue, je savais dire si, non, si, si. Et voilà. Donc les premiers temps, ça a été très compliqué parce qu'on me demandait, on posait des questions tout simplement, comment tu t'appelles? Si. Et voilà. Donc à la tête des gens, je voyais que c'était pas la bonne réponse. Donc des fois, j'essayais non. Et d'autres fois, avec les signes, on arrivait à se comprendre. Pareil, quand on me demandait mon âge et quand j'ai été au lycée, enfin, c'était aussi toute une aventure parce que là-bas, pour le lycée, par exemple, on a un uniforme. Les cours commencent à 7 heures du matin parce qu'il fait très chaud. Donc, on se lève à 5h30. Donc, quand t'es ado, t'as 15 ans, t'as pas envie de te lever à 5h30, encore moins pour aller au lycée. Et ça a été vraiment assez particulier. J'ai eu la chance de tomber sur des gens vraiment très gentils, les costaricains. Il n'y avait pas beaucoup d'étrangers à cette époque à Puerto Limón. Ils en avaient pas marre des touristes et ils ne me voyaient pas non plus comme une touriste. Donc ça, c'était bien. Ils m'ont tout de suite pris sous leurs ailes. Ils voyaient que je comprenais rien de ce qu'ils me disaient. Donc les autres élèves me passaient leurs notes pour que je recopie. Donc je recopiais bêtement les cours, je comprenais rien. Et voilà. Après, il y a du fait de ne pas parler la langue, il y a eu des petits problèmes, évidemment. Par exemple, au bout de 2 mois, j'ai eu la dengue. Donc la dengue, c'est une maladie qui s'attrape par les piqûres de moustiques et qui est potentiellement mortelle. Ça, maintenant, on le sait. À l'époque, en tout cas, moi, je ne le savais pas. J'avais jamais entendu parler de la dengue. Et donc, je me suis fait piquer à un moment ou un autre. Et là, je vais à l'hôpital déjà. Donc, en fait, j'ai eu deux familles d'accueil. Et la première, ça s'est très mal passé. J'ai eu la dengue quand j'étais avec eux. Ils m'ont laissé aller à l'hôpital toute seule. Donc, je ne comprenais pas trop ce qu'on me disait. J'ai compris qu'il fallait que je baisse mon pantalon. On m'a fait une injection dans la fesse. Et voilà. Et on m'a dit, c'est normal, c'est la dengue. Bon, bah, si c'est normal, c'est la dengue. Voilà, j'ai eu mon injection, je rentre chez moi. Les jours passent, ça passe toujours pas, parce que le principe de la dengue, c'est que ça te détruit les plaquettes. Donc, tension très faible. Et je retourne à l'hôpital. C'était pas aussi développé que maintenant, et encore moins aussi développé que la France. Fallait que j'aille devant les portes de l'hôpital fermées vers 4 heures du matin, sachant qu'il ouvrait à 8 heures, pour être sûre d'être dans la file et de pouvoir rentrer en fait et d'avoir une place dans la journée pour qu'on s'occupe de moi. Donc c'était assez particulier, surtout quand t'es faible, tu comprends pas, t'as ta famille qui est à l'autre bout du monde. C'était vraiment chaud. Et donc, tous les jours, il fallait que j'aille faire mon injection à l'hôpital. Et un jour, un médecin, donc là, au bout d'un moment, je commençais à comprendre le vocabulaire médical. Et le médecin m'a dit que, il m'a proposé de m'hospitaliser. C'était pas une obligation. J'avais 7,5 de tension et il m'a gentiment proposé. Il m'a dit, si tu veux, tu peux rester, on t'hospitalise. Non. Non, non, non. Moi, j'ai refusé. Je voulais surtout pas être hospitalisée. Je voulais pas être hospitalisée tout court. Et c'est des années après, en fait, que j'ai su que la dengue était une maladie mortelle et que ça aurait pu être pire, qu'il y avait 4 niveaux de dengue. Et donc la dernière, c'est la dengue hémorragique. Et ça a changé de nom maintenant, je ne sais plus comment on l'appelle, mais bon, bref, c'est celle-là qui est vraiment mortelle. Et moi, j'étais au niveau 3, en fait. Donc voilà, les petits... Ça, c'était le gros problème que j'ai eu au Costa Rica, les petits inconvénients de ne pas parler la langue quand on arrive dans un pays. Après, donc ça, c'était juste le point négatif. Donc il y a pire comme problème, enfin... dans ce que j'ai vraiment aimé du Costa Rica, c'est que donc, j'ai eu 2 familles d'accueil. Une première avec qui ça se passait mal, étant donné que, par exemple, ils m'ont laissé aller à l'hôpital toute seule quand j'avais la dengue et que je ne parlais pas la langue. Et la deuxième, alors eux, ils m'ont reçue et ils comprenaient pas pourquoi il fallait que j'aille au lycée déjà. C'était, mais Céline, de toute façon, tu vas redoubler en rentrant en France, t'as 15 ans, mais vas-y, profite-en, quoi. Donc tous les week-ends, ils appelaient leurs cousins, leurs oncles aux quatre coins du pays. Ils me disaient, Céline, faut que t'ailles visiter cette ville, pars en vacances là-bas, c'est pas grave, je te ferai un mot pour les cours. C'est pas grave si tu vas pas lundi, d'ailleurs tu ferais mieux de partir jeudi et tu reviens que dans une semaine. Et voilà. Alors que le principe de l'échange culturel, c'était quand même d'aller en cours. Et eux me poussaient à partir, à prendre mon sac à dos et à partir voyager comme ça. Donc ça a été mon premier voyage en solo. Et c'était assez incroyable parce que bah, c'était pas... Maintenant, tout le monde, pas tout le monde, mais on entend beaucoup parler du Costa Rica. C'est un pays très sûr d'Amérique latine. C'est très touristique. Et à l'époque, ça l'était pas tant que ça. Donc sur la côte Pacifique, il y avait beaucoup d'Américains qui venaient pour des croisières. Mais c'est tout, le reste du pays, il était à moitié oublié. Donc ça a été mes premières fois en auberge de jeunesse. Ça a été mes premières petites galères de backpackeuse quand tu te retrouves dans une auberge de jeunesse à partager ta chambre avec des cafards volants. c'est pas bien grave, mais ça surprend de se réveiller en fait et de voir qu'il y a 3 cafards qui ont partagé la chambre avec toi. Bon, j'espère que j'en ai pas croqué un cette nuit. Et j'ai pu voyager comme ça même jusqu'au Panama. Et ça, c'est ce voyage qui a déclenché pour moi l'envie vraiment de continuer à voyager, une curiosité complètement insatiable. Et mon but quand je suis revenue du Costa Rica, c'était de passer mon bac et de faire des études qui allaient me permettre de voyager parce que je savais que c'est ça que je voulais faire. Je pense que dès ce premier voyage, j'ai compris que je voulais voyager, mais lentement. Enfin, au Costa Rica, je voyageais rapidement. Enfin, voilà, je me faisais des week-ends à droite, à gauche. Mais j'ai vécu au Costa Rica pendant un an. Donc, par exemple, ma famille d'accueil, elle était croyante. Bah, de temps en temps, je les accompagnais à la messe. J'ai vu comment sont les messes au Costa Rica. Ça n'a rien à voir avec comment est une messe en France, par exemple. Je connais les coutumes, enfin, certaines coutumes, pas toutes, évidemment. Je connais la nourriture. Et tout ça, c'est vachement agréable. Je connaissais mon itinéraire dans la ville, je pouvais me promener toute seule, marcher dans une ville, dans un pays étranger, et qu'il y a quelqu'un qui te salue parce qu'il te connaît. Enfin, tu te sens chez toi et c'est vachement agréable. Tu sais que t'es pas juste là pour consommer des paysages ou juste... juste consommer des attractions touristiques. Et il y a plein de choses. Je suis restée un an au Costa Rica, c'est longtemps. Mais il y a plein d'endroits que j'ai pas visités parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'ai... Enfin, je vivais, quoi. Il y a des fois, je voyageais pas pour pouvoir sortir avec mes amis. Et c'était ça aussi qui était important. Donc, à mon retour du Costa Rica, je savais que je voulais continuer à voyager comme ça, tout doucement, aller vivre à l'étranger. Et voilà, et mon retour du Costa Rica était très, très, très difficile. J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus du fameux retour des voyages, qui peut être une grosse claque en pleine face pour beaucoup de voyageurs qui vivent quelque chose... à l'étranger, que ce soit pendant 6 mois ou un an, que ce soit en tour du monde ou en expatriation. Et quand ils reviennent, bah, soit ils retrouvent leur boulot, leur appart qu'ils avaient laissé, soit ils retournent chez leurs parents, c'est toujours mon cas, et ils retrouvent leurs amis, mais il n'y a personne Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. Donc là, c'est vraiment mon point de vue personnel. Tu peux en parler, tu peux raconter, tu peux dire « Ouais, bah, j'ai vu des bébés tortues naître, je me suis perdue à tel endroit. » Mais les gens, ils savent pas. Enfin, si je leur dis Puerto Limón, ils savent pas comment c'est, même si je montre des photos. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On communiquait par lettre, donc ça mettait 3 semaines à arriver. Une fois par mois, j'allais dans un cyber pour envoyer 2-3 mails, mais c'est tout. Donc le temps que moi j'envoie des informations, que m'en envoie, le temps que je fasse imprimer des photos pour leur envoyer de temps en temps, mais ça coûtait cher aussi, donc je leur envoyais pas des albums entiers. Donc il y avait une vraie séparation et ils ont pas pu vivre avec moi, entre guillemets, mon voyage au Costa Rica. Donc quand je suis revenue, bah, personne pouvait vraiment savoir ce que moi j'avais vécu, et moi je pouvais pas non plus savoir ce que eux avaient vécu, surtout à l'adolescence où bah, les relations elles se forment, elles se défont, enfin c'est une période assez spéciale. Et eux reparlaient des soirées qu'ils avaient faites, et moi ça m'intéressait pas. Enfin, c'est non, moi j'avais d'autres priorités, le voyage par exemple. Eux c'était plus bah, on va se concentrer pour passer le bac ou. Ouais, les préoccupations d'ado, quoi. Qui sort avec qui, Trucmuche, il est amoureux de Bidule, mais en fait, elle préfère l'autre. Enfin, des trucs à la con qui se passent dans la vie de tous les ados. Donc, le retour, ça a été une vraie baffe, parce que j'ai eu l'impression de plus avoir ma place en France et de plus avoir ma place au sein de ses amis, alors que j'ai encore des amis qui ont quitté les Cévennes. J'habitais dans les Cévennes à l'époque. Qui ont quitté les Cévennes, et j'ai encore des amitiés, mais j'avais l'impression que ma place, elle était plus au milieu d'eux, et c'est aussi pour ça qu'après j'ai continué à voyager, et un voyage, bah, ça invite à un autre voyage, et encore à un autre voyage. Et c'est pour ça que, ouais, comme je disais au début, qu'après j'ai commencé des études pour continuer à voyager. Toute ma vie, en fait, je l'ai axée autour du voyage. Donc des études de langue pour pouvoir partir en Erasmus à l'étranger. Après, des études en relations internationales, pour pouvoir faire des stages à l'étranger. J'ai aussi profité des programmes européens pour faire un volontariat européen à l'étranger. Et tout est parti comme ça. Enfin, ma vie, ça a été une succession de mini-expatriations grâce ou à cause du voyage au Costa Rica.
Merci beaucoup pour ce récit. Alors, quand tu m'as parlé du Costa Rica, j'ai tout de suite pensé à cette image qu'on a un petit peu en ce moment d'un pays très engagé dans la transition énergétique, très vert. Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque ?
Alors, oui et non, parce que à l'époque, donc, ils misaient tout sur l'éducation. Par exemple, il n'y a pas d'armée, donc ça depuis les années 40 ou 50, enfin je ne vais pas donner de date parce que je ne suis pas sûre. Ils misaient tout sur l'éducation, donc c'était très important, et sur le tourisme vert, qui se développait énormément sur la côte pacifique, où allaient les Américains lors de leur croisière. Mais dans ma ville, à Puerto Limón, et sur toute la côte caraïbe, c'était, donc je l'avais dit, oublié du gouvernement, et c'était un vrai dépotoir. Il y avait énormément de déchets partout dans la rue, il y avait énormément de drogues, et donc les gens n'étaient pas du tout sensibilisés à ça. Enfin, de toute façon, il y avait un système de collecte des déchets, mais c'était minime. Enfin, Puerto Limón, c'était une ville, comme on voit dans les films, c'était enfin, genre Gotham City, quoi. Enfin, j'exagère un tout petit peu, mais c'était vraiment glauque et tout. Après, moi, j'ai aimé, parce que justement, j'avais l'impression d'être dans un film, mais c'était pas une comédie romantique avec les trottoirs qui brillent. Donc, il n'y avait pas tout... Les gens ne se rendaient pas compte qu'il ne fallait pas jeter les déchets par terre, par exemple. Et la dernière fois que j'y suis allée, c'était il y a... ça devait être en 2015, je crois, que j'y suis retournée. Et c'était la première fois que j'y retournais depuis mon premier séjour. Et là, j'étais dans un bus, et il y a des touristes qui ont jeté des pots de fruits par la fenêtre. Et en fait, le bus était à l'arrêt parce qu'il y avait un contrôle de police. Les flics sont montés dans le bus, ils ont demandé qui a cru que le trottoir, enfin que la route était une déchetterie. Donc les deux touristes, ils ont levé la main un peu timide. Et les flics leur ont demandé de descendre, de ramasser leurs pots de banane ou de je sais plus quoi, et d'aller les garder jusqu'à ce qu'ils trouvent une poubelle. Ça, c'était pas du tout envisageable avant. Donc il y a eu vraiment, ça a évolué, je sais pas comment, sûrement grâce à l'éducation, parce que c'est quelque chose de très important là-bas. Et il y a vraiment une différence maintenant. Maintenant, tout est propre, il y a des poubelles partout, voilà.
Bon, alors, au cours de ton premier séjour, tu mentionnais que t'as eu l'occasion, je crois, d'aller dans la famille étendue un petit peu de ta deuxième famille d'accueil. Est-ce qu'il y a des anecdotes ou des endroits qui t'ont particulièrement marqué pendant ces voyages ?
Il y en a plusieurs. Il y a eu une fois à côté du parc Manuel Antonio, qui est très beau. C'était dans une famille où ils étaient 5-6 et il y avait deux chambres. C'était une maison, il devait y avoir 2 mètres de hauteur sous plafond. Donc ça va parce qu'ils sont petits, et moi aussi. Mais c'était vraiment très bas. Il y avait de l'électricité, mais il valait mieux pas trop en consommer non plus. Et il y avait presque rien. Enfin, c'était vraiment surprenant. Ils avaient de l'eau, mais c'était juste, comme dans beaucoup d'endroits, juste de l'eau qui sort d'un seul robinet, c'était de l'eau froide. Et ils avaient presque rien à manger. Et même comme ça, ils m'ont servi comme une reine, quoi. Donc ça m'a marqué plus par rapport à la famille, à la manière de recevoir les gens, que par rapport au paysage, même si c'est un endroit magnifique. Et ensuite, il y a un autre endroit où j'ai été et j'ai beaucoup apprécié, c'est sur la côte nord des Caraïbes, à côté du parc très connu Tortuguero. Et c'est un endroit, là j'y étais avec des cousins de la famille, c'était pas chez eux, c'est un centre de préservation de tortues. À l'époque, c'était pas du tout touristique. Maintenant, ça se fait de plus en plus, les centres qui accueillent des touristes pour récolter de l'argent en grande partie. Et là, c'était intéressant parce qu'on était 4 touristes. On est restés 3-4 jours. Et toutes les autres personnes qui étaient là, c'était des biologistes ou des scientifiques qui font des trucs avec la nature. Je sais pas exactement ce qu'ils faisaient. Et c'était super intéressant parce qu'on devait vraiment travailler avec eux, faire les rondes pour aller détecter les nids de tortues, pour aller compter les œufs et tout. Donc ça, au niveau paysage et expérience animalière, c'était magnifique.
De façon plus générale, pour se parler de ta manière de voyager, toi, avant le voyage, est-ce que tu as un espèce de rituel de pré-voyage ?
Non. Je n'ai pas de rituel. Je t'aurais bien dit que, par exemple, je prends tout le temps mon passeport, mais même ça, je peux pas le dire, parce que le week-end dernier, j'étais en Espagne et j'avais oublié mes papiers d'identité. Ce n'est pas quelque chose à faire. Mais non, je n'ai aucun rituel.
À quel point tu prépares tes voyages et je sais pas à quelle place tu laisses à l'improvisation une fois que t'es là-bas.
Vu que j'ai pas de rituel et que je suis capable d'oublier mon passeport, je ne prépare pas mes voyages non plus. Par choix, parce que j'aime être surprise en fait. Je consomme beaucoup de blogs de voyage, mais soit je lis des destinations qui m'attirent pas spécialement, soit je lis les articles sur des destinations où j'ai déjà été, ou alors je les lis une fois que j'y suis ou une fois que j'y suis allée. Et je préfère les blogs de voyage qui racontent des récits de voyage plutôt que le top 5 des choses à voir et tout ça. Je le lis jamais parce que j'ai pas envie qu'on me dise qu'il faut que je voie ou pas. Je préfère aller sur place, ne rien savoir, et ensuite demander aux locaux, et c'est eux qui me guident, qui me disent « tiens, ça c'est sympa ». C'est voilà.
C'est ce que tu disais dans ton récit, à un moment, que le voyage maintenant c'est beaucoup de consommation, de la consommation de paysages, de la consommation de traditions un petit peu locales, qui sont même un peu des fois faussées. C'est ça la différence entre le voyage et les vacances, selon toi ?
En vacances, en fait, le temps, il est plus réduit. Moi, j'ai de la chance. Enfin, c'est une chance que je me suis créée aussi de voyager autant et de pouvoir prendre mon temps, de travailler depuis l'étranger. Et donc, je sais que quand on part peu de temps, on a envie de tout voir. Enfin, il faut que ce soit rapide. Quand on n'a que 2 semaines, on veut que ce soit rapide. Après, il y a le problème de vouloir tout voir et en même temps de partir à l'autre bout du monde sans même connaître son propre pays. Et il y a aussi toute cette incitation à travers les réseaux sociaux, je pense, si tu vas au Pérou, faut faire le Machu Picchu, faut voir le Machu Picchu. Moi, j'ai été 2 fois au Pérou, je n'ai pas été au Machu Picchu par choix. Et je sais pas si c'est la vraie différence. Il y a des personnes qui partent en vacances et qui voyagent, qui prennent le temps de la rencontre et qui se disent, ouais, je vais passer 2 semaines juste... je sais pas moi, 2 semaines à Ljubljana, qui est une toute petite capitale, mais pendant 2 semaines, je vais vraiment connaître Ljubljana, je vais rencontrer des gens. Je pense que c'est vraiment la différence entre les personnes, c'est quelque chose de très personnel.
Bon alors, tu parlais d'Instagram, toi, quelle est la manière dont tu racontes et tu documentes tes voyages ? Est-ce que ça va être via des posts sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu tiens un journal de bord ?
Alors, j'ai un blog sur lequel j'écris des récits de voyage. De temps en temps, je donne des conseils. Mais c'est pas trop le vide de mon blog. Je documente pas tous mes voyages, parce que j'ai pas forcément l'inspiration, parce que j'ai envie de le garder juste pour moi et pour les personnes avec qui j'ai voyagé. Donc là, j'écris, c'est vraiment plus des mots, il y a pas beaucoup de photos sur mon blog. Et j'aime bien partager en story Instagram. Soit instantané, soit dans la journée, je prends des photos. Et le soir, je repartage des photos sur Instagram.
Tu mentionnes ton blog, t'as peut-être envie de faire un petit peu de promo.
La seconde auto-promo, mon blog s'appelle Voyage d'une plume, sur tous les réseaux, et voilà.
Tu mentionnais tout à l'heure des rencontres. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué dans un de tes voyages? Et de manière plus générale, comment tu considères les rencontres? Et est-ce que tu gardes contact avec les gens que t'as rencontrés une fois de retour au pays?
Alors, les rencontres au Costa Rica, il y a eu ma famille d'accueil. Ça, c'est pas la deuxième. La première, j'ai pas du tout de contact maintenant. Mais la deuxième, celle qui me faisait voyager aux quatre points du pays, c'était il y a 15 ans et je suis toujours en contact avec eux. Et eux, ça a été vraiment une très belle rencontre parce que je trouve ça très beau de recevoir un étranger chez soi qu'on connaît pas. Ils étaient bénévoles, donc ils avaient aucune rémunération. Et ils m'ont fait faire tout ce qu'ils font faire à leurs propres enfants. J'ai passé Noël avec eux, le jour de l'an, les fêtes de famille, c'était ensemble. Enfin voilà, ils m'ont inclus dans leur vie. Ça, c'était une belle rencontre. Et sinon, un Costaricien, je saurais même plus dire comment je l'ai rencontré, mais on avait le même âge. Et lui, il m'a montré le côté difficile de la ville, en fait. Il m'a amené dans des quartiers assez dangereux. Il m'a expliqué une autre réalité, parce que ma famille, bah, ils avaient les moyens de me recevoir quand même. Et lui, il venait d'une famille très, très modeste. Donc, cette personne, elle m'a montré une autre face du Costa Rica. Et je suis toujours en contact avec lui.
Quels sont tes futurs projets de voyage ou les pays que tu aimerais absolument visiter dans les mois ou les années à venir?
Alors, mes projets... au mois de novembre, je retourne pour la cinquième fois au Chili. Non, pour la quatrième fois. J'ai habité 4 ans au Chili. Entrecoupé, mais en tout, ça fait 4 ans. Et donc là, j'y retourne. Je ne sais pas combien de temps, j'ai un aller simple, donc je verrai. Après, j'aimerais bien retourner en Bolivie, l'Amérique latine c'est un continent, des continents qui me plaisent énormément, et j'ai pas de rêve absolu. Enfin, depuis toute petite, je rêve d'aller en Afghanistan, ce qui est un peu compliqué vu le contexte actuel, mais j'ai pas de bucket list, ni rien.
On arrive à la fin de cet entretien, donc tu as un petit espace qui t'est réservé, donc si tu as une dernière anecdote, une recommandation, un proverbe, une citation, un conseil, c'est à toi.
Je pense que je pourrais conseiller aux gens, même si je ne sais pas si je suis très bien placée pour donner des conseils, de voyager comme eux ils l'entendent en fait, et de pas, comme je le disais par exemple pour le Machu Picchu, si t'as envie d'aller au Pérou et t'as pas envie d'aller au Machu Picchu, bah n'y va pas, c'est pas grave, enfin... C'est pas parce qu'il n'y a pas une photo de toi en train de faire une figure de yoga en haut du Machu Picchu que, enfin, si elle n'existe pas, c'est pas grave. T'as quand même vécu ton voyage, t'as vu d'autres choses. Ouais, ne pas écouter les diktats liés au voyage.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui. Une partie de moi, mon bonheur. C'est bourlingué.